les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour cette émission d'une heure en compagnie de notre invité du jour qui n'est autre que Geoffroy Boucard. Geoffroy, bonjour, comment allez-vous ?
Ravi d'être parmi vous, j'espère que vous allez bien aussi.
Exactement, avec cette belle météo un samedi matin sur Chauvigny.
Oui, parfaitement, avant en soufflant à 60 km/h. Attention, pour la randonnée aujourd'hui, on va peut-être rester devant le feu à la cheminée.
C'est vrai qu'on n'y pense pas, la météo c'est important quand on fait du sport, on va le voir d'ailleurs pendant cette émission. On va parler avant de votre métier, votre profession, vous êtes de la psychologie cognitive, hein, c'est bien ça?
Oui, je suis enseignant-chercheur en psychologie cognitive, donc ce qui m'intéresse c'est toutes les fonctions liées à l'attention, à la mémoire. Ah. Et donc l'objet de mes recherches consiste à démontrer en fait les bienfaits de l'activité physique sur la mémoire, particulièrement chez les publics seniors, mais aussi chez des enfants et d'autres publics ayant des pathologies comme la maladie de Parkinson.
Exactement, on va pouvoir développer un peu. Vous êtes marié peut-être, des enfants ?
Pas encore marié, mais j'ai cependant donc deux enfants, deux filles, voilà, âgées de 2 ans et 2 mois.
Pas encore marié, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, on m'a demandé une chanson qu'on va passer tout à l'heure, hein, c'est Alex Warren qui chante Ordinary,
oui,
une chanson pour un mariage, hein, donc peut-être...
effectivement, c'est une chanson assez romantique, ouais, ouais. Et qui nous amène à nous dépasser en effet.
Exactement, je dis ça parce qu'on est le 4 octobre, il y a 17 ans en fait, hein, je me suis marié, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire de mariage.
Ah, félicitations.
Je vais pas y couper, hein, j'ai 17 roses pour les 17 ans, puisque c'est l'année de la rose, donc voilà, on y passera. Vous êtes donc maître de conférence, vous êtes enseignant hein, en psychologie cognitive. Qu'est-ce qui vous a amené à ce domaine ?
Mais en fait, j'y suis arrivé un petit peu par hasard. Ce qui est bien, c'est qu'en STAPS, donc c'est la filière de laquelle je suis issu, on s'intéresse à plusieurs sciences et on aborde de la physiologie, de la biomécanique, de la psychologie, de l'anatomie. Et bien, en fait, suite à une étude que j'avais faite dans le Poitou-Charentes, dans différentes maisons de retraite et EHPAD, j'avais fait passer des questionnaires sur l'activité physique et des tests qui s'appellent le MMSE. Et puis, ben, c'est à partir de là, en L3 ou licence 3, Master 1, que j'ai vu un intérêt particulier pour la psychologie cognitive. Voilà, on est au carrefour entre les sciences humaines et les sciences qu'on estime un peu plus dures, comme par exemple la physiologie.
Exactement, donc avec de l'exercice en tant que professeur, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, et puis la partie en même temps plus publique, on va dire, avec des interventions dans les maisons de retraite ou ailleurs.
Alors, c'est surtout dans le cadre des enseignements que je réalise. J'essaye d'innover sur l'aspect pédagogique et j'aime bien commencer par évidemment des cours théoriques en salle avec les étudiants. Et à la suite de cela, nous essayons d'aller sur l'aspect pratique et d'intervenir auprès de différents publics. Voilà, c'est aussi l'objet des randonnées dont on va discuter aujourd'hui. On s'articule pleinement là-dedans et toujours sur les aspects innovation pédagogique. Mais là, c'est aussi une autre question importante dans nos sociétés actuelles. C'est le temps exagéré que l'on passe assis. Et j'essaye de réfléchir à des manières dont on pourrait apprendre en étant moins assis.
C'est vrai qu'on passe de plus en plus de temps assis et devant les écrans.
Oui.
Ça devient compliqué. On se demande comment on n'a plus besoin de jambes en fait aujourd'hui. Hein, pratiquement, ça devient un peu compliqué par rapport à ça. C'est vrai qu'on parlait de randonnée hein, puisque vous créez des circuits de randonnée en fait pour vos étudiants.
Oui, voilà, sur le secteur de la Vienne. Alors, on a la chance d'avoir autour de Poitiers de superbes paysages, de super panoramas. Et en ça, le Clain, c'est clairement le fer de lance. Il a plusieurs confluents, le Mieusson, la Boivre. On a également les vallées sèches qui ne suivent pas la logique d'un cours d'eau que l'on va longer lorsqu'on randonne.
Uh-huh.
Et tout ça, ça crée vraiment des panoramas attractifs pour tracer des circuits. Et j'amène les étudiants à repérer des secteurs, à tracer des circuits, amener ses compétences avant finalement d'encadrer auprès de randonneurs de la Vienne qui sont évidemment très motivés à l'idée de découvrir ces panoramas et puis d'apprendre aussi sur l'histoire de ouais. ces zones que l'on appréhende.
Exactement, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre sur le secteur, énormément même. Vous ne vous êtes pas encore intéressé à ce que j'appelle moi le triangle d'or historique hein, du Poitou, Chauvigny, Anglio-sur-Anglin, Saint-Savin, ça viendra peut-être.
Ah oui, bah alors voilà, il y a ce biais aussi de déplacement, il y a l'aspect écologique qui rentre en compte. Quand on fait des déplacements, on fait du covoiturage, donc si je pouvais aller sur Chauvigny, évidemment ce serait génial. Je trouve que le secteur est aussi sympa, on est sur de semi-urbains entre les vallées du Talbat et puis... la vallée de la Vienne, dans la ville même de Chauvigny. Mais voilà, on est limité par nos déplacements. Puis les étudiants aussi ont des contraintes aussi économiques. Donc voilà, on se doit pour l'instant de rester. On verra si on a d'autres issues plus tard.
Exactement. Vous avez des partenaires par rapport à ça? Je pense à l'université, je pense au département, je pense à d'autres peut-être.
Là, sur ces projets que je développe pour l'instant, pas vraiment. Par contre, oui, je me suis déjà entretenu avec la directrice de l'Office de tourisme de Poitiers, qui est arrivée il y a quelques années et qui participe largement à l'organisation de l'Urban Trail de Poitiers.
Oui, tout à fait.
Et donc, elle a vu ce que je faisais à l'époque en trail ou en rando dans les vallées sèches, par exemple à Buxerolles, au niveau de la Caborne. Et elle avait vraiment une forte volonté de réaménager les chemins autour de Poitiers. Et j'ai pu percevoir, en continuant mes explorations ces dernières années, qu'elle avait réaménagé des sentiers au bord de la Boivre, à la Vouneuil-sous-Biard ou à Buxerolles, et ça m'a vraiment enchanté de pouvoir être, qu'elle soit dans cet état d'esprit. Donc je vais la considérer comme une pseudo-partenaire.
Ouais. Exactement, oui. C'est vrai que Poitiers, et puis l'Office de tourisme de Poitiers est partenaire sur toute la première couronne, on va dire. C'est un peu plus difficile de les avoir sur Chauvigny, qui fait pourtant partie de Grand Poitiers. Je le dis parce que je parle de ce triangle d'or, hein, oui, qui se développe actuellement grâce au département de la Vienne. Okay. On a donc la communauté de communes de Châtellerault qui est partie prenante, celle de Montmorillon, et on va dire que celle de Poitiers freine un peu des quatre fers, hein, puisqu'ils font partie aussi quand même de ce secteur, mais voilà, on espère peut-être les amener un jour à intervenir, hein, avec le département dans ce domaine-là. On parlait donc de randonneurs, c'est pas un hasard, hein, vous êtes sportif. J'ai vu un peu, je suis allé sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est bien d'ailleurs les réseaux sociaux, c'est que vous êtes sportif, vous avez fait du foot d'abord.
Oui,
et puis ensuite
ça.
Du trail, pas mal de trail.
Ouais, j'ai fait une vingtaine d'années de football. Malheureusement, j'ai une grave entorse en 2003 et puis ça a interféré avec ma pratique de sportif en course à pied, en trail par la suite. J'ai commencé la course à pied en 2013, donc j'ai fait 7-8 ans à assez bon niveau, on va dire, avec des championnats de France de cross à l'œuvre aussi et des chronomètres qui restent intéressants pour un amateur. Et avec des blessures qui sont arrivées par la suite en lien avec cette grave entorse, une opération. Donc pour l'instant, je suis un petit peu en retrait de tout cela, mais j'ai toujours pratiqué avant tout pour le loisir, avant d'être performant. Donc j'essaye de transmettre cet amour de l'activité physique et de la nature avec des personnes dans la randonnée et dans le trail aujourd'hui. Donc, mais cette âme de sportif m'habite toujours. Voilà.
Oui, tout à fait, parce que je voyais les moyennes il y a peut-être quelques années, à 17 km/h à l'arrivée, ce qui était pas mal. Moi, je me dis que même au départ, je suis pas sûr d'aller à cette vitesse. Vous faites du trail, vous avez fait le trail du château déjà, à Chauvigny?
Le trail des châteaux Chauvigny, non. Si, je pense que c'était l'une des premières que j'ai faites, c'était un 7-8 km, c'est la plus petite. À l'époque, quand j'ai commencé, j'avais dû finir 3e.
Oui, c'est ça.
Je me souviens bien de cette grosse côte au niveau des remparts. Alors quand on est débutant, ça surprend, parce qu'on s'attend à courir toujours sur de la route, sur du bitume. Mm-hmm. Et puis non, alors à chaque fois, c'est qu'elle est en fin d'été.
Oui, c'est ça.
Il se trouve que parfois, je suis pas là au même moment, donc c'est encore manqué pour cette fois-là.
Peut-être,
mais ça devrait être vraiment génial, parce que ça va même sur le secteur de Bonne.
Oui, c'est ça,
une
justement.
Super organisation. Vraiment, faut la faire un jour, c'est
exactement.
Obligé.
Exactement, d'ailleurs le président de SNC 86, hein, nous le recevrons certainement dans quelques semaines, a changé. C'est Sébastien Moron au départ qui a fait 3 années, hein, et qui a laissé sa place cette semaine, on l'a vu. On les recevra d'ailleurs dans quelques semaines, puisque nous parlerons du Téléthon, hein, et de la soirée des Lucioles, hein, de la course des Lucioles qui se déroule tout le temps au mois de décembre, en marche et trail aussi d'ailleurs, hein, autour de Chauvigny pour soutenir le Téléthon. L'année dernière c'était 1059 personnes.
Ah oui, quand même.
On se dit que cette année, vu qu'on organise le Téléthon sur Chauvigny là, au niveau départemental, on se dit que le chiffre peut être battu, en tout cas. Au niveau de tout ce qui est trail, Poitiers, vous parliez tout à l'heure du trail de Poitiers, c'est une belle épreuve aussi, vous l'avez faite,
L'Urban Trail de Poitiers, ouais. Oui, c'est une superbe épreuve, une grosse organisation, une super communication également. Aujourd'hui, ils atteignent des milliers de participants.
Oui, ouais,
hein. On est toujours dans l'âme de milliers de participants. Uh-huh. J'ai eu la chance de faire une deuxième place et une première place sur ce circuit. Donc c'est à 3-4 ans avant d'enchaîner les blessures, mais je ne désespère pas d'y revenir. Et ce que j'aime bien dans ce circuit, c'est le fait qu'on axe la communication aussi sur le patrimoine, mmh. sur le fait qu'on traverse aussi des monuments d'intérêt et puis qu'on valorise également le vieux Poitiers, c'est du dénivelé, c'est l'ADN de l'Urban Trail, c'est des escaliers et puis on a de quoi faire avec les escaliers des dunes
par exemple. Oui, tout à fait. Oui.
Et les escaliers du diable aussi.
Tout à fait, qui sont le plus du côté de la gare, on va dire.
Hein, oui. Si je...
pareil au niveau de vos activités, hein, donc une randonnée qui va avoir lieu très prochainement, on parle de Poitiers, on parle d'histoire, on parle de patrimoine, sur Blossac notamment et puis sur le vieux Poitiers, vous avez deux randonnées qui vont arriver très prochainement par rapport à cela, mais ouvertes simplement, je pense, à des adhérents, aux jeunes qui vous accompagnent pour...
Oui, voilà, donc on a 4 zones, on a 8 randonnées qui sont organisées avec les étudiants, donc on fait venir des randonneurs, on a communiqué par le site Facebook dans un premier temps, puis ensuite, je viens de créer une communauté WhatsApp pour communiquer donc, de manière plus aisée. Donc on a aujourd'hui 30 à 40 randonneurs qui sont volontaires pour participer à ces 8 randonnées. On va commencer par les deux premières randonnées dans le secteur Vieux Poitiers, à commencer par le secteur du Porto, qui, on le sait, offre aussi un certain dénivelé.
Oh oui, tout à fait. Mais,
et offre, à mon humble avis, l'un des 4 plus beaux points de vue de Poitiers. Dans le secteur Porto, on a une vue plongeante sur le Clain, donc sur la verdure, sur les chevaux, avec une prairie juste au-dessous, au niveau du Trétabouleau. Et puis ensuite, au loin, on voit tous les monuments dépassés de la ville, donc c'est clairement attractif. Et puis ensuite, il y a le deuxième randonnée, la randonnée de Blossac, dans le vieux Poitiers. Et là, on a aussi de quoi faire avec les escaliers du diable, les escaliers des dunes. Nous avons également la possibilité de passer dans le palais des ducs d'Aquitaine. Ça, c'est toujours la spéciale. Et c'est ce qu'avait déjà fait l'Urban Trail de Poitiers.
Ouais,
j'avoue
fait,
que j'ai apprécié cette idée que j'ai reprise. Voilà donc pour commencer les deux premières randonnées.
Exactement, donc c'est vrai qu'il y a énormément de vues, des belles vues en tout cas. Moi je me souviens au niveau du Porto avec ces falaises en fait, hein, il y a quelques années quand j'étais étudiant, même bien avant, on allait sur la butte et avec un crayon pour faire des dessins, simplement pour représenter le paysage. Et c'est vrai qu'on voyait tous ces monuments de Poitiers, hein, que ce soit le Baptiste Archangel, peut-être pas, mais Notre-Dame, la cathédrale et autres. Et aujourd'hui la mosquée qui est juste au pied de la falaise. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vouloir vous intéresser à Poitiers? Je peux le comprendre, vous êtes vous intéressez aux étudiants. Et puis surtout, vous êtes enseignant donc sur Poitiers. Qu'est-ce qui vous a véritablement amené à la randonnée, en fait, hein, à ce type de randonnée, à ce type de cheminement, créer des randonnées?
Depuis mon plus jeune âge, mes parents nous ont souvent amenés dans les randonnées en montagne.
Ah oui.
J'ai eu ce plaisir de découvrir la carte IGN, d'apprendre ce que signifiaient ces courbes qui étaient rapprochées ou pas. Mon père voulait faire marcher ma mère sur des circuits des fois, et puis elle disait souvent « Oh, est-ce que les lignes sont resserrées ? Parce que là, tu ne me fais pas passer là. » Donc, ça a commencé comme ça, ça c'est pour la petite anecdote humoristique. J'ai toujours conservé ce plaisir de la randonnée avant tout.
Ah, vous appelez ça un plaisir, vous montez de la montagne pour descendre.
Ouais, d'aller au point le plus haut et d'admirer le pays. Alors au début, je voulais passer les 3000, donc j'ai dû faire une trentaine de sommets de plus de 3000 mètres,
ah oui,
notamment la Grande Sassière dans les Alpes, 3700, c'est la plus haute randonnée qu'on accède sans matériel d'alpinisme. Mais au-delà de ça, là, en avançant en âge, surtout après la trentaine, je me suis de plus en plus intéressé à ce que l'on pouvait traverser dans ces randonnées. Alors évidemment les animaux, mais aussi tous les aspects culturels. Et aujourd'hui, il y a une opportunité pour faire découvrir, il y a un vrai intérêt pour faire découvrir Poitiers d'un point de vue touristique. On a le Futuroscope qui attire, mais il faut aussi, pourquoi pas, attirer ces touristes aussi avec tout ce qu'on a à faire en termes de randonnée. Et aujourd'hui, j'ai envie de valoriser ça parce que y a avant tout un plaisir à être dans ces valeurs.
Exactement. Beaucoup de randonnées sur la Vienne, on le voit, c'est un peu la saison là maintenant jusqu'au mois de décembre. Je crois qu'on a peut-être une dizaine par week-end avec énormément de monde. Alors vous, c'est plus, on va dire, cosy quelque part, puisque vous, il y a un but par rapport à la randonnée habituelle où on est là que pour marcher. Là, il y a véritablement un cheminement pour créer des parcours. On va en reparler tout à l'heure. On va d'abord faire une petite pause musicale. Vous me l'avez demandé, je vais la passer. Hein, c'est Alex Warren pour Ordinary. On aura tout de suite après un invité, c'est Éric Touzalin qui est écrivain, qui est photographe aussi, qui s'intéresse à la randonnée puisqu'il en fait du côté de la Brenne. Et on se retrouve donc tout de suite après cette chanson qui fait un peu peut-être une future demande en mariage, on ne sait pas, hein, on verra bien.
They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried. On the edge
edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we sanctuary. Shatter me with your touch, will never turn me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hope. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate. Oh, my life, how do ya? Breathe and take my breath away. At your altar, I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh, my, my, you're taking me out. Something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried? On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Geoffroy Boucard qui est enseignant hein, en psychologie cognitive. Et j'ai au téléphone donc Éric Touzalin. Éric, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Vous allez bien par cette météo, hein, je le disais tout à l'heure, il pleut un peu sur le secteur. Vous êtes de Lagny-sur-Fontaine, ça va être la même chose ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Exactement. Je vous ai non pas pour parler alors de vos livres, hein, vous êtes auteur, et d'ailleurs vous reviendrez sur notre radio prochainement et rencontrer Mathieu Noirot pour parler de vos livres. Il y en a un dernier qui est sorti là il y a quelques semaines. C'est un livre sur quel c'est un roman.
Hein. C'est une suite, oui, c'est un roman, mais c'est une suite. Hein. Mm-hmm. Le titre, c'est Marion qui aurait pu imaginer cela. Alors le premier, c'était Marion, pardonne-moi mes erreurs. Et c'est la suite de ce roman, c'est une histoire familiale qui se passe en Normandie.
Vous voyez, 9 livres, 9 romans, il faut quand même avoir le temps, hein, notamment, j'ai vu qu'en 2003, vous avez réussi à en sortir 3 dans l'année.
Oui, en 2023. Oui, 23, mais bah, Covid obligé. Hein. Et là, oui, non, j'en ai fait 8 à l'heure actuelle, le dernier, là, c'est le 8e, et le 9e est en cours d'écriture.
D'accord. Et vous faites aussi, vous êtes passionné d'autres choses, de photos,
non, ah, entre autres. Ah oui, c'est ça. Oui, sur la photo.
Voilà, la photo. Et votre secteur, alors j'ai vu qu'il y avait des expositions, hein, vous photographiez des feux d'artifice. J'ai été impressionné tiens, par les photos. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus compliqué que de prendre ce genre de photos hein, quand on est le 14 juillet. Vous avez les appareils pour ça, je suppose ?
Oui, j'ai un bon appareil, oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien préparer sa photo, bien préparer son appareil. Quand vous faites un feu d'artifice, bon, bah, il y a des réglages, des pré-réglages à effectuer. Après, bon, bah, c'est les temps de pause que vous allez bouger sur place. Mais oui, j'aime bien, moi, le feu d'artifice et je me suis un petit peu spécialisé là-dessus. Alors, c'est pas évident, hein.
C'est sûr.
Avant d'en avoir fait une bonne, j'en ai fait des centaines de mauvaises. Hein. Mais maintenant ça va, je l'ai réussi bien.
Vous faites aussi tout ce qui est randonnée, suivre des randonnées, des trailers et autres, parce que c'est pareil, la course, il y a le mouvement là, à accompagner, ça peut donner des beaux effets.
Oh oui, mais disons quand c'est au niveau des mouvements, je préfère encore le faire sur des oiseaux.
Oui, c'est ça, tout à fait.
C'est différent parce que vous faites des oiseaux en mouvement, vous faites des clichés merveilleux, hein. Vous avez et puis bon bah vous, moi j'aime bien aussi l'impressionnisme. Alors ça permet aussi de faire des effets un peu bizarres. C'est ça rend bien.
Qu'est-ce qui vous a amené à l'amour de la photo justement, cette passion?
Oh, il y a des années que je faisais ça, mais bon, après, bon, ben, professionnel, quand j'étais au niveau professionnel, j'avais pas le temps.
Oui,
Hein,
vous étiez.
j'étais toujours par mon et par vous. Et puis après, bon, ben là, oui, j'ai décidé d'investir dans un très bon appareil. Et puis, voilà, il fallait le découvrir, cet appareil. J'ai fait des clichés pourris pendant un moment, hein, mais ça, c'était normal. Hein. Mais bon, avec l'avantage avec le numérique, c'est que le cliché, on l'efface et on n'en parle plus.
Exactement, aujourd'hui tout
On
le monde est
pouvait pas faire.
photographe. Hein.
Oui, ce qu'on pouvait pas faire avec l'argentique. Hein.
Exactement, oui, tout à
Mais
fait.
bon, quand même, si vous voulez faire de beaux clichés, puis éviter des retouchés, quoi, parce que bon, il y en a quelques-uns qui sont légèrement retouchés. Moi, je ne fais pas de la grosse retouche, hein. Mais un petit peu de retouche, bon, bah, des fois, ça peut arriver, mais il faut quand même faire à la base une très très belle photo.
Exactement. Et votre secteur, c'est quoi? C'est les étangs? J'ai vu que vous étiez pas mal dans la
Ah ouais,
Brenne.
la Brenne, alors la
La
Brenne,
Brenne,
c'est
c'est.
le paradis des photographes.
C'est magnifique. Hein. J'ai
Ouais.
essayé d'avoir ce matin le maire de Mézières, hein, Jean-Louis Camus, hein, qui est très occupé. On l'aura prochainement dans une émission. Moi, je me permettrai d'ailleurs de vous inviter. On a parlé en antenne, hein, bientôt pour parler justement de ces étangs de la Brenne, pour parler
Oui.
de randonnée autour. Vous pratiquez un peu la randonnée?
Non, je ne pratique pas enfin,
Pas
la
du tout.
randonnée,
Oui,
oui,
comme tout le
si un petit
monde.
peu, un petit peu comme tout le monde, on va
La
dire,
marche,
oui.
voilà.
Mais en Brenne, en Brenne, je m'éclate parce qu'on fait vraiment de. L'avantage de la Brenne, c'est que vous faites aussi bien de la photo animalière le printemps, l'été comme l'hiver, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est
Là, les.
peut-être plus compliqué, c'est d'avoir les autorisations. C'est énormément.
Non, non, vous n'avez pas
Non?
besoin d'autorisation parce que moi, je vais uniquement dans les observatoires
Ah, d'accord, voilà. Qui
parce que,
appartiennent à
alors,
la.
faut reconnaître que ce sont des gens formidables parce qu'ils ont créé des observatoires qui sont vraiment merveilleux. Hein,
Tout à fait, c'est un parc régional d'ailleurs. Hein,
Ah ouais, non, non, mais c'est fantastique. Hein, on peut les remercier, on peut même les féliciter. Hein.
Exactement. Quand je parlais d'autorisation, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué avec les étangs privés, énormément d'étangs
Ah
privés.
bah
Hein.
pour les randonnées, oui, pour les
Ouais, voilà.
randonnées et tout, oui, il faut des autorisations. Et puis il y a des organisations de randonnées, tout ça. Non, non, mais moi j'aime bien faire mon tour, voir la photo. Je la cherche pas vraiment la photo. Moi, faut qu'elle vienne quand j'ouvre un observatoire, j'ouvre une fenêtre, je regarde. Et bon, si j'ai la chance d'avoir l'oiseau ou les oiseaux devant moi, bon bah j'y vais. Mais je cherche pas vraiment le cliché parfait.
Vous n'êtes pas allé encore dans le bois de Saint-Pierre, non? Prendre des photos d'animaux, d'autres, de.
Ah, j'évite le. Je ne fais pas de. Moi, bon, je fais la photo de nuit, mais de la photo de nuit, ça serait plutôt au niveau du patrimoine. Mais disons que là, comme le brame et tout ça, non, je ne le fais
Ah,
pas.
vous évitez, d'accord.
C'est un peu. Faut se méfier le brame, hein, parce que c'est pas toujours évident. J'ai des amis, là, des amis photographes qui font de très très belles photos, mais ils disent bien qu'il faut faire très attention, parce que ces animaux-là sont pas tellement. Ils sont pas tellement faciles à cette époque-ci.
Tout à fait. Il y avait une randonnée, tiens, l'année dernière sur votre secteur, hein, sur l'Aisne-sur-Fontaine, justement pour aller écouter le brame. J'avoue, je ne
Oui.
l'ai pas entendu d'ailleurs de la soirée. J'ai mangé, hein, c'est une rando gourmande, donc, mais
Oui.
pas de brame. C'est vrai que c'est aléatoire.
Ah bah oui, c'est aléatoire, ça dépend. Hein. Ça, vous savez, les cerfs, ils sont là ou ils sont pas là. Enfin, ils sont là, mais ça dépend des secteurs, ça dépend où les biches se situent aussi. Hein.
Tout à fait, oui. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de venir, hein, dans l'émission prochainement. On reparlera de tout ça. Et puis, bien autre chose encore, puisque vous êtes passionné aussi, je crois, de postes de radio. Hein. Il me semble que j'ai lu ça quelque
Ah
part.
oui.
Voilà.
Ah mais j'ai tous les défauts, vous
Ah,
savez.
oui. Mais écoutez, on en parlera d'ici là. Et puis, bah, vous aurez rendez-vous avec Mathieu Noirot, hein, qui fait son émission Tourner la page, donc tous les 15 jours. Je crois que vous avez une date, hein, pour parler de vos ouvrages, votre dernier ouvrage, hein, qui est
Et
sorti.
j'ai aussi, je peux peut-être le préciser,
Allez-y.
j'ai deux sites internet.
Oui, j'allais le dire, j'allais l'oublier. C'est un instant pixel, hein, pour le premier.
Instant tiré du 6 pixels pour la photo.
Ouais.
Et l'autre, c'est ericdevienne.fr.
Oui, puisque Éric Devienne, c'est votre nom d'artiste de
D'auteur.
plume, d'auteur, voilà, c'est ça,
D'auteur,
tout à
oui.
fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous donnerai les coordonnées, hein, tout à l'heure à l'antenne, il n'y a pas d'ailleurs. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, on se recontacte pour une date au mois de novembre, hein, pour se voir sur place, là, ici en studio.
Ben, il n'y a aucun souci, ben, c'est moi qui vous remercie.
Bon
Voilà.
week-end.
Au revoir, vous
Merci.
aussi, au revoir.
Au revoir.
Il était 5 h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Geoffroy Boucard qui est enseignant hein, en psychologie cognitive. Nous étions donc avec Éric Touzalin donc, qui est écrivain, neuf romans, qui est aussi photographe, c'est ce qui m'intéressait là, au niveau de la randonnée. Pareil hein, pour ce qui vous concerne Geoffroy, vous faites de la randonnée sur le secteur et on parlait tout à l'heure de randonnée dans Poitiers, mais il n'y a pas que Poitiers, hein, vous en faites aussi sur le Bois de Saint-Pierre et ailleurs. Hein. J'ai vu que vous intéressiez à Noyers-Maupertuis, bel endroit ça.
Oui, magnifique endroit qui pour la première fois est au menu des randonnées et puis j'ai pas précisé mais des trails aussi que j'organise avec des licences 3 et maintenant des seniors sportifs retraités qui viennent trailer avec nous, hein, donc qui ne marchent pas mais qui courent. Donc là oui, on est dans la vallée du Mieusson, ce fameux Mieusson qui démarre à Saint-Benoît, enfin exactement. Non, qui se jette dans le Clos Saint-Benoît, des fois on se trompe un peu dans le sens, et qui va ici et là passer dans le bois des Veillevantes à Saint-Benoît, et qui passe également dans le bois de Saint-Pierre. Donc avant de parler de Noyers-Maupertuis, voilà, ça c'est la troisième randonnée qui sera dans l'éventail des 8 randonnées que nous proposons, donc avec les étudiants pour les randonneurs. Et dans le bois de Saint-Pierre, on a aussi la possibilité de passer, de mettre le pied dans l'eau pour les plus audacieux. Alors ça peut-être pas en randonnée mais en trail, c'est le gué de Vertrec, je ne sais pas si vous connaissiez.
Non, moi je connaissais la grotte de, c'était quoi cette grotte dans le bois de Saint-Pierre, du Prince Noir.
Oui.
Je ne sais pas si elle existait ou pas, mais en fait, quand j'étais enfant, on nous faisait croire qu'il y avait une grotte là-bas qui était la grotte du Prince Noir.
Effectivement, entre Noyers-Maupertuis et Smarve, donc on est entre le bois de Saint-Pierre et le secteur bois de la Garenne, il y a la roche du Prince Noir, il y a également la roche de Pron. Et on sent qu'on est encore dans l'histoire, dans la guerre moyenâgeuse qui opposait Anglais-Français. Et vous me parlez justement de Noyers-Maupertuis et de sa magnifique abbaye,
oui,
donc
fait,
voilà, qu'on va explorer. Donc il y a le fameux bois de la Garenne qui est entre le soi-disant champ de bataille de la guerre de Noyers-Maupertuis et 1300, l'abbaye.
1356, si j'ai bonne mémoire.
Oui, 1356. Et puis ce bois de la Garenne, il est particulièrement audacieux en termes de dénivelé. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois du challenge en termes d'effort physique et puis aussi, évidemment, cette histoire, non seulement autour de l'abbaye, évidemment, qui tire son nom d'ailleurs de Noyers, pour une nouvelle église, et puis Maupertuis pour l'aspect mauvais chemin qu'a rencontré, dans le sens figuré, les Français par rapport aux Anglais dans leur défaite cuisante. animé par la direction de Jean Lebon.
C'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits donc à visiter. C'est vrai que moi, Noyon et Pertuis, je connaissais la reconstitution qui est faite chaque année hein, par les bénévoles en pleine nuit. C'est vrai qu'avec le repas d'ailleurs autour de la tous autour de la table avec un repas médiéval. Vous faites ces randonnées. Donc on a parlé du Bois de Saint-Pierre, on a parlé de Noyers-Maupertuis, on a parlé de Poitiers. Il n'y a pas que ça. Mais quel est l'intérêt véritablement de ces randonnées? Parce que je comprends pour les étudiants, je comprends que ça puisse être un moyen de se rassembler, mais il y a un but, une finalité certainement, non?
Oui, il y a une finalité. Alors là, on va justement revenir sur les étudiants. Donc on a quatre filières en STAPS, et l'une des quatre filières, c'est le management du sport.
STAPS,
donc,
c'est
STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Il me semblait
bien.
En
quatre filières, il y a entraînement sportif, il y a éducation motricité, c'est pour devenir prof de PS.
D'accord.
Activité physique adaptée santé, enseigner des activités physiques à des personnes handicapées. Moi, j'avais fait cette filière. Et puis il y a la filière management du sport, donc des personnes qui peuvent travailler dans le marketing, qui peuvent travailler dans la communication, l'événementiel. Et donc là, ils ont une compétence à développer, c'est la compétence offrir une relation client de qualité. Donc on se sert d'une APSA, d'une activité physique support, et donc le cours s'appelle activité physique relation client. Donc là, les clients, ce sont les randonneurs.
D'accord.
Et il faut savoir quel est le profil des randonneurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Moi, j'identifie trois aspects à peu près, mais ça reste subjectif. L'un des premiers aspects, c'est se dépenser, voire se dépasser.
Ouais.
C'est peut-être pas le premier intérêt pour lequel les personnes vont marcher, hein. Ça, c'est vrai. Et puis la deuxième chose, bien, c'est pouvoir s'immerger du paysage, l'immersion dans la nature, s'émouvoir de tout ce que l'on peut voir en termes de paysage, l'aspect plus écologique. Et la troisième chose, c'est apprendre, enrichir ses connaissances culturelles, historiques, géographiques et puis même sociales. C'est-à-dire que partager ce moment de randonnée avec d'autres personnes, c'est aussi très important, ce lien social.
Exactement. Je me posais la question justement par rapport au lien social. On a beaucoup d'applications, on en parlera tout à l'heure, des applications qui naissent par rapport à cela. Avant, quand on allait randonner, on avait les panneaux, on pouvait discuter. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup se baladent avec l'application et oublient de discuter entre eux, en fait. Hein. Un podcast sur les oreilles et puis on oublie le monde à côté, quoi.
Oui, effectivement. Alors, ça dépend des profils. Ça peut aider à faire passer le temps. On peut choisir de ne rien écouter, de discuter ou d'écouter les bruits de la nature.
On peut écouter l'émission, d'ailleurs, en podcast, hein, qui est sur RFC.
Voilà, tout en marchant. Mais après, l'avantage de marcher et d'écouter en même temps quelque chose, on arrive à bien faire deux choses en même temps. C'est plutôt bon pour notre cerveau. Mais c'est encore mieux, peut-être, si on peut discuter avec quelqu'un en même temps que l'on marche. Ça aussi, ça entretient bien nos capacités cognitives.
Exactement.
Et puis, ça permet d'enrichir nos interactions sociales.
Exactement, c'est très, très, très important. Ça s'approche aussi de ce que font les médecins avec les personnes atteintes de maladies. Hein. J'ai vu notamment sur votre profil que vous alliez quelquefois en maison de retraite ou autre par rapport à votre activité. C'est vrai que c'est important, ça, ce lien, de garder ce lien par rapport à la maladie, par rapport à Parkinson d'ailleurs. Hein. J'ai vu que vous étiez intervenu quelque part par rapport à ça.
Oui, ce lien social est extrêmement important. Évidemment, ça c'est pour lutter contre l'isolement. Et par exemple, dans la maladie de Parkinson, c'est clair qu'il y a des atteintes motrices, il y a aussi des atteintes non motrices, notamment cognitives. Mais ce qu'on vise surtout, c'est réussir à proposer des activités de groupe où les personnes vont s'épanouir, se stimuler. Et en groupe, ça va être encore plus stimulant pour notre cerveau que seul. Donc oui, dans les recherches que j'effectue récemment, au-delà de l'entraînement physique et cognitif, que proposent les activités physiques, nous insistons fortement sur le lien social offert par les activités qui pourrait promouvoir encore plus les bienfaits sur la santé, également sur le bien-être. Donc on parle ici d'un environnement enrichi, la triple stimulation physique, cognitive et sociale, et c'est tout l'objet des interventions qu'on fait par exemple avec des étudiants en activité physique adaptée et santé.
D'accord. Vous n'êtes pas intéressé aux SDIS, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qui sont partis, les pompiers hein, de Poitiers, de la Vienne, qui sont partis en direction de Dax, pour le village Alzheimer de Dax. Ils sont partis de Chauvigny, en fait, hein, 573 kilomètres. Ça peut être un moyen, vous qui aimez la randonnée, vous qui aimez le trail, hein, de les suivre l'année prochaine, avec 5-6 étudiants. Je pense que ça leur ferait plaisir de savoir qu'il y a du monde derrière eux. Si vous êtes prêts à faire 570 kilomètres en 6 jours, je crois, pour aller au village Emmanuel, je ne sais plus le prénom de M. Emmanuel, hein, qui a été maire et surtout maire de Dax, et puis ministre à l'époque dans les années 80. Donc il y a un village Alzheimer là-bas qui apparemment fait du très bon travail. Et l'idée, c'est d'adapter en fait le travail de ce village Alzheimer sur la Vienne. Peut-être qu'un jour ça viendra.
Alors oui, ils partent en courant, ils courent sur 6 jours.
Exactement.
Je crois que c'est Jean-Baptiste. Alors je ne sais plus son nom, mais c'est un excellent coureur trailer aussi. Et donc lui, je sais qu'il participe notamment à cette course depuis des années. Je ne sais pas encore s'il est parti.
Alors c'est peut-être lui qui avait eu l'idée de l'annoncer par rapport à son grand-père.
Possible.
Je sais qu'il y en
oui,
a.
Oui, voilà, je voulais pas donc évoquer l'histoire qui pouvait être personnelle, mais il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça.
C'est ça, par rapport à son grand-père qui avait été.
Quelle maladie d'Alzheimer, voilà. Et je crois qu'il doit être pompier aussi par ailleurs. Là, il faut avoir un corps bien armé. Il ne faut pas avoir de pépins au tendon d'Achille ou à la cheville. Donc je vais attendre que le problème puisse se résoudre. Et pourquoi pas les suivre un jour. Alors là, on est sur de l'ultra rando, de l'ultra trail, hein, autant de kilomètres, 573 en 6 jours. Incroyable.
Fait,
ouais. Ça me fait penser à la Transpyrénéa que Vincent Hulin avait fait, le confrère de Radio Bleu, ici Poitou, voilà.
Ouais.
Et qu'il avait traversé les Pyrénées d'est en ouest, c'est autour de 800-900 kilomètres, il me semble, de mémoire. Donc, faut avoir un sacré mental également.
Exactement.
Des ressources mentales.
Vous êtes dans un club justement par rapport à cela ou
En course à pied ?
Oui, tout à fait, en course à pied.
Oui, j'appartiens au club du CA Pictav. C'est là où j'ai pu avoir certaines performances individuelles et collectives, notamment en cross-country. Et j'en suis toujours c'est moi qui prescris les programmes du club. Donc, c'est l'un des plus gros clubs hors stade de la région Nouvelle-Aquitaine. On a énormément d'adhérents, entre 200 et 300. Et il y a 4 groupes de niveaux, toujours avec ces couleurs que je propose de randonnée. En fonction des niveaux de conditions physiques, je ne propose pas les mêmes séances aux participants. Donc ça, c'est un aspect un peu spécifique que je propose et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres plans. Donc l'idée, c'est vraiment d'être toujours dans cette logique d'activité physique adaptée.
C'est vrai que c'est important de s'adapter. Moi, je le vois sur la soirée des Lucioles hein, au mois de décembre. On fait ça en pleine nuit, en fait, avec les frontales. Et je me suis toujours étonné parce que sur le circuit, donc il doit faire à peu près 9 km, on se retrouve à passer en pleine forêt avec des dénivelés assez importants. C'est important, c'est intéressant en tout cas à faire. Je sais que mon épouse en a un peu bavé, on va dire, mais elle est quand même prête à le refaire cette année. Voilà.
Surtout dans le noir, là, ça ne doit pas être évident.
Il vaut mieux avoir de bonnes frontales.
Ouais, et puis ça met en jeu notre équilibre. Alors on a une frontale, mais on doit quand même un petit peu deviner ce qu'il y a sous le pied. Donc on est toujours en train d'anticiper.
Exactement.
Et ça fait travailler des qualités sensorielles essentielles. On est souvent dépendant de la vision, donc là on va travailler notre propre proprioception, c'est cette capacité que l'on a de repérer son corps dans l'espace sans indice visuel, notamment.
Vous voyez justement que là, tout ce qui était cognitif, c'était aussi tout ce qui était dyslexie et autres.
Oui, aussi.
Ça peut être intéressant, justement, de pratiquer la pratique du sport par rapport à cela.
Oui, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs effets bénéfiques. Alors, on va parler ici de mécanismes. D'abord, il y a l'effet vraiment direct. Si vous faites des activités peu intenses mais complexes, des activités sensorimotrices, et je pourrais même aller sur jouer au piano, jouer d'un instrument, on est aussi là-dedans. Donc ces activités-là, on va utiliser certaines zones de notre cerveau qui vont finalement se développer. On parle de plasticité cérébrale. Et puis on a aussi l'effet indirect de l'activité physique, et là c'est plutôt l'intensité qui va jouer, comme les exercices d'endurance, de renforcement musculaire. Et ces exercices intenses, en fait, ils vont avoir un effet physiologique qui va finalement jouer sur nos fonctions cognitives, donc une meilleure oxygénation. Ça semble évident, c'est un mécanisme qu'on connaît relativement bien dans le grand public, hein, mm-hmm. Oxygéner le cerveau, hein, on pourrait le dire ainsi. Mais au-delà de cela, on va créer des nouveaux neurones hein, par des mécanismes un peu plus sophistiqués. Et on a cette capacité à tout âge de créer des nouveaux neurones. On peut même plus en gagner qu'on en perd.
Ah, je pensais que ça partait, qu'il n'y avait plus de possibilités.
Alors ça, c'est c'est une idée qu'on a eue, pardon, jusqu'à la fin des années 90. Et puis il y a eu des travaux chez l'animal et puis chez même les primates qui nous ressemblent un peu plus que les rats, et qui ont été un peu plus équivoques et qui montrent qu'en fait l'exercice physique est un facteur de neurogénèse. Et c'est pas le seul, hein, avec d'autres facteurs, l'équilibre alimentaire aussi, on peut avoir une influence sur la création de nouveaux neurones. Et juste pour vous citer une étude, par exemple, c'est une étude de 2010 établie en Amérique du Nord qui montre que une centaine de marcheurs réguliers, de seniors âgées de plus de 55 ans, qui font 3 fois par semaine de la marche nordique, eh bien chez ces personnes, on leur a fait passer une IRM au début de l'étude et un an après, des tests de mémoire également. On a vu que la mémoire avait progressé. et également que l'hippocampe, la zone clé de la mémoire, s'était développée de 2%. Or, c'est une zone normalement qui perd environ 1% de volume par an. Donc là, on est sur un gain de 2%. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui se passe. On peut gagner plus qu'on perd et l'activité physique y contribue. La marche nordique, bien, vous avez l'effet physiologique, l'intensité. Vous utilisez tous les membres du corps, mais il y a aussi l'effet un petit peu sensorimoteur, la coordination à laquelle on va faire appel, bras, jambes. Et puis, quand on devient un vrai adepte de marche nordique, il y a encore plus de techniques à maîtriser. Donc, on va enrichir vraiment ces deux aspects, intensité et complexité.
D'accord. Moi qui pensais que la marche nordique, c'était simplement faire du ski sans ski, tout simplement. Ça, je n'allais pas plus loin que ça. C'est vrai qu'il y a un intérêt dans ce cas. Parce que je pense que je vais commencer déjà à y réfléchir quand je verrai des marcheurs, en me disant qu'ils n'ont peut-être pas si tort que ça.
Ils musclent leur cerveau, on va dire.
Exactement. Puis peut-être essayer d'en faire autant, moi aussi, en allant avec mes bâtons me promener. On va faire une pause musicale, tiens, puisqu'on en a fait une première tout à l'heure avec Alex Warren pour Ordinary. On va en faire une autre pour faire plaisir à mon épouse, cette fois-ci, par contre, puisque on fête aujourd'hui c'est nos 17 ans de mariage avec Soleil Bleu et Louisa. Et on revient tout de suite après.
Frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là-haut, plus rien n'est égal. Même dans le noir, je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je veux marcher sans fin, je veux fendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de notre invité du jour, Geoffrey Boucard, qui est maître de conférence en psychologie cognitive à l'Université de Poitiers. Pas que, qui s'intéresse à la randonnée, on l'a vu jusqu'à présent. On va reparler d'ailleurs de randonnée. On a parlé de Poitiers, on a parlé de la Miosson, on a parlé des Bois de Saint-Pierre, on a parlé de l'abbaye de Noyers-Maupertuis. Il y a d'autres randonnées prévues à la suite. Je crois qu'il y en a 8 en tout. Hein.
Oui, effectivement, à nouveau un confluent du Clain qui est toujours notre fil rouge, c'est la Boivre. La Boivre qui se jette dans le Clain aux alentours de la gare de Poitiers. Il y a d'ailleurs des passages souterrains un petit peu durs à accéder. Heureusement, on ne s'aventure pas ici. Nous, on s'aventure sur deux secteurs, au niveau de la Norée d'abord, les fameuses grottes de la Norée.
Oui,
on a un point de départ ici, donc
à visiter
situé dans la commune de Biard. Oui,
vous êtes allé les visiter déjà, vous avez...
Alors oui, j'ai été il y a une dizaine d'années. Donc oui, effectivement, j'ai beaucoup apprécié la visite. Alors là, on ne va pas pouvoir y aller, malheureusement.
Non,
voilà, ça nous ferait...
C'est vrai qu'on est allé, nous, l'année dernière, en visite, et c'est magnifique. Hein. Je ne connaissais pas, moi,
c'est
spécialement.
C'est vraiment splendide d'avoir ça autour de chez nous.
Exactement, oui. Ouais.
Donc là, on a le moulin de la Norée, juste à côté.
Ouais. Oui, tout à fait, oui.
Et puis là, on part de Biard, et puis on va aller dans le quartier de Bel-Air. Belle-Joanne, on pourra dire que c'est une randonnée semi-urbaine. Et puis on a aussi une deuxième randonnée qui se situe toujours aux abords de la Boivre, à Vouneuil-sous-Biard, avec un départ au parking du parc de la Boivre, à côté du parcours sportif. Et là, on a pas mal d'éléments culturels à aborder. On a le vieux pont, on a également le lavoir, et puis il y a le château du Crêpes de la Boivre. Donc, si on parle du vieux pont, il faut savoir qu'on date de manière hypothétique ce vieux pont à 1666. Donc,
oui, tout de même, ouais.
Il y a quand même un effet d'âge qui s'imprime sur ces itinéraires. Et puis, dans ces secteurs-là, on a aussi du dénivelé. À Vouneuil-sous-Biard, nous avons les fameux escaliers de la LGV au niveau du secteur de la fenêtre. On a, il semble-t-il, plus de 200 marches à franchir.
Ah, oui.
Certains disent 273. C'est un randonneur que j'ai croisé récemment. Il faudrait vraiment que je les compte, mais on n'est pas loin des escaliers des dunes, et peut-être même plus. Donc voilà de quoi faire dans le secteur de la Boivre. Et je salue à nouveau l'Office du tourisme qui a réaménagé les sentiers sur le secteur de Vouillé-Saint-Hilaire, en face du Crêpes de la Boivre. On a tout un secteur de sentiers en monotrace, puisque c'est ça que les randonneurs et les trailers apprivoisent particulièrement. On a des sentiers qui vont longer la Boivre, les peupliers, sur des vieux ponts réaménagés en bois. Donc là, on a des photos sublimes. On parlait de photos tout à l'heure,
oui,
à tirer de ces paysages. Et puis c'est tout plat. Donc c'est très accessible pour un randonneur novice qui ne veut pas forcément aller chercher et crapahuter des cols, des côtes, pardon, ou des descentes techniques.
Exactement. Au niveau de ces randonnées, tiens, vous allez faire ces randonnées, vous faites les circuits, vous créez ces circuits, vos étudiants, je pense, créent les circuits. Si on veut participer, comment faire? Vous cherchez du monde actuellement pour vous accompagner ou
Oui, alors pour l'instant, c'est en développement. Ça a commencé l'an dernier. L'an dernier, on était entre 10 et 20 randonneurs.
Ouais.
Là, on pourrait atteindre entre 30 et 40.
Ah, c'est pas mal.
Il y a un fait de bouche à oreille. C'est déjà pas mal. Alors, j'ai principalement communiqué par le site Facebook avec un groupe appelé Projet Rando Étudiants. C'était d'ailleurs sur Rando 86. Hein. Donc, je salue grandement aussi pour avoir permis de diffuser ce message. Oui, pourquoi pas si ça se développe. Et on a aussi une limite dans les parkings auxquels on fait appel. Il va falloir faire encore plus appel aux covoitures si on se développe par la suite. Et puis là, aujourd'hui, je vous remercie de m'inviter, puisque c'est aussi un moyen de faire connaître ce que l'on propose sur nos randonnées. Donc si vous êtes éventuellement intéressé pour faire ces randonnées qui sont ouvertes à tout public, eh bien, on a un site sur Facebook qui s'appelle Projet Rando Étudiant, Rando RNDO-étudiant ETUDIANTS. Et si vous voulez vous joindre à ce groupe, je vous accepte dans le groupe, et ensuite on pourra vous mettre dans notre groupe WhatsApp pour donner les informations de toutes ces randonnées.
Exactement. Ces randonnées sont ensuite accessibles dans le futur, je parle, sur Internet. Le but, c'est véritablement de les inscrire quelque part
Alors oui, ça pourrait être sur un site internet. Après, je vous avoue que le métier que je réalise prend déjà pas mal de temps.
Je veux bien le croire.
Et alors là, c'est sur une tâche qui demande de créer un site web. Ça peut même dépasser mon champ de compétences. Pour autant, c'est le champ de compétences des personnes que je forme en management du sport. Hein, c'est le paradoxe. Peut-être que oui, avec une forte ferveur dans le futur, peut-être qu'on créera des partenariats pour davantage communiquer sur ces circuits.
Exactement, déjà avec l'université, pourquoi pas? Combien d'étudiants tu as sur l'université de Poitiers? Pas loin de 20 000, non? Peut-être pas.
On est sur des dizaines de milliers d'étudiants. Il me semble que ce nombre de 20 000 me dit quelque chose.
Ouais,
j'aurais tendance à dire ça sans vous dire vraiment la source.
Oui, ce qui fait que ça peut peut-être intéresser justement le partenariat avec l'université, tout simplement. Il faut peut-être pas aller beaucoup plus loin.
Oui, faire appel à d'autres participants, des étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants.
Oui.
D'ailleurs, je crois qu'on avait travaillé avec Émilie Martin de la CVEC qui pilote pas mal d'actions, ou alors en lien avec la maison des étudiants, et qui pilote pas mal d'actions pour les étudiants. Elle m'avait dit de communiquer avec eux. Donc il y a aussi un site Facebook avec lequel j'avais communiquer avec les étudiants l'an dernier. J'ai pas relancé cette année encore, je vous avoue, parce que j'attends de voir déjà avec 30 participants ce que ça donne. Si on a un gros afflux, comment on va pouvoir gérer? Voilà, on reste sur quand même quelque chose qui est dans le loisir. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait envisager parce que on est ici sur du lien intergénérationnel. C'est aussi un atout que j'ai pas mis en avant tout à l'heure dans le lien social. Cet aspect intergénérationnel, c'est vraiment stimulant. J'ai perçu l'an dernier les jeunes, les étudiants amener un goûter à la fin des randonnées, les seniors qui participaient étaient contents. Et c'est quelque chose, je pense, qui c'est le petit plus de ces randonnées, c'est mélanger les âges et puis aussi rompre avec les stéréotypes qu'on peut avoir parfois à l'égard de certains âges. On parle d'âgisme ou même de jeunisme. Là, l'idée, c'est de vivre un moment, de passer un moment ensemble autour de ces magnifiques paysages.
Exactement. Les randonnées en kilométrage, c'est combien de temps à peu près? C'est quoi? C'est 2 heures de randonnée? C'est un peu plus?
Alors, ça dépend du rythme des participants. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est 4 circuits de couleurs. C'est un peu comme au ski ou au judo, on a des codes couleurs. À commencer par le vert, puis le bleu, puis l'orange et finalement le rouge. Le vert, on est sur 4-6 kilomètres. Et pour commencer par ces petits circuits, c'est les personnes qui marchent plutôt à 3-4 km heure. On les encourage à faire ce circuit de 4-6 km. D'accord. Après, il y a des circuits de 6 à 8 km, on est sur le bleu. Donc, c'est des personnes qui marchent plutôt entre 4 et 4,5 km heure. Ensuite, on a le 8-10 km, c'est l'orange. Donc ça, c'est des personnes qui marchent de 4,5 à 5 km heure. Et finalement, le circuit rouge pour faire la totalité du parcours, pour ne rien rater. Et là, c'est des personnes marchant à 5-6 km heure. Et là, donc c'est le 10-12 km.
Et là, donc on part avec une carte IGN, on se repère, le tracé est déjà prêt.
Alors, pour le but des randonneurs, c'est de ne rien avoir à gérer d'un point de vue cognitif, si ce n'est gérer leur randonnée, marcher, discuter, s'émouvoir de ce qui se passe autour d'eux. Et c'est vraiment le job des étudiants. Il faut qu'ils aient compris tous les arts du logiciel sur lequel je suis abonné Open Runner, qui permet d'avoir accès notamment à 2 cartes intéressantes, parmi lesquelles on a la carte IGN, hein, c'est ça, parce qu'avec l'abonnement, cette carte IGN, on voit le dénivelé, l'appellation des secteurs qu'on traverse, et c'est eux qui ont tracé, qui ont repéré puis, par 2 fois et qui ont tracé les circuits, et eh bien, charge à eux de bien diriger leur randonneur dans parfois des dédales, par exemple à Poitiers, de se repérer, et ça fait partie aussi de leur évaluation, puisque à la fin, nos randonneurs, ils auront une questionnaire d'évaluation et ils jugeront en moins de 5 minutes avec un questionnaire, des petites notes sur 10 sur différents aspects, le travail des étudiants. Par exemple, la gestion du rythme, l'aspect sécuritaire. C'est des randonneurs souvent qui ont une expérience de la randonnée, donc ils vont apporter leur expertise là-dedans. Et on s'inscrit ici dans cette démarche grand public citoyen ou aussi dans la recherche, on a ça avec le SAPS. De plus en plus, c'est les personnes de l'extérieur qui vont apporter leur regard sur le travail proposé.
Exactement, ce sont donc les randonneurs qui notent les étudiants.
Oui, en partie, alors en pas partie, tout, mais parce que voilà, il faut que j'y apporte aussi. Mais oui, effectivement, ils contribuent, donc voilà, c'est l'aspect client.
Exactement, ils sont peut-être aussi notés par rapport au nombre de pertes hein, sur un trajet. On a peut-être droit à un nombre de pertes dans de seniors.
Alors pour l'instant, ce n'est pas arrivé, j'espère que ça n'arrivera pas. De toute façon, on a les numéros de téléphone de tous les étudiants, bon, là, si un problème nous appelle. Ouais. Mais s'il y a une perte, non, là, ça se passe pas vraiment bien. Là.
D'autres randonnées, on a parlé déjà des 6 premiers. Je crois qu'on n'a pas parlé d'Ansoulès hein, et puis du secteur sur Buxerolles.
Oui, c'est le dernier secteur. On les appelle les vallées sèches. C'est l'exception qui confirme la règle. La règle du secteur de Poitiers, c'est tous ces cours d'eau. Le Clain, le Mieusson, la Boivre, pour ne citer que ces cours d'eau. Mais on a aussi les vallées sèches, c'est l'antithèse. D'ailleurs, quand il pleut comme aujourd'hui, oui. Ce qu'on a tendance à faire, c'est changer le plan et nous orienter pour randonner et trailer dans les vallées sèches.
Elles sont vraiment, vraiment sèches. Il n'y a pas de souci d'humidité, de marais, de choses comme ça.
Eh bien oui, ça a tendance à moins s'inonder. Je le constate dans les années. Donc par le terme sèche, je comprends un petit peu mieux l'appellation. Alors ces vallées sèches, elles ont vraiment un intérêt en termes aussi de flore, de végétation. On dit que c'est une végétation un petit peu méditerranéenne qui s'y retrouve. D'accord. On y retrouve notamment la fleur appelée astragale, qui est l'ancien nom du talus qui se situe dans notre pied. Je le sais bien puisque je me suis déjà fracturé une partie de cet os. Voilà. Donc c'est une fleur, si vous la trouvez, l'astragale, réjouissez-vous-en. Et donc là, sur le Buxerolles, on a la première randonnée, c'est la Caborne. C'est aussi le nom d'un hameau de Buxerolles. On a la vallée Lacaborne. Et Lacaborne, c'est quoi? Donc, c'est notamment été réaménagé par l'Office de tourisme. C'est une cabane en pierre. Et ici, on est sur un secteur aux abords de la rocade. Donc cette rocade, malheureusement, ça fait du bruit. On perd un petit peu du jus de l'immersion naturelle. Mais par contre, on est clairement sur quelque chose qui ressemble un peu aux montagnes que l'on a en France. C'est des petites montagnes et il y a cet esprit un peu pastoral. On a des sentes, ce sont des monotraces, mais qui sont à peine marquées et qui ont été remis au goût du jour par l'Office de tourisme. Le but, c'est de s'imprégner un petit peu de l'univers des bergers qui vivaient ici. D'accord. Ça pourrait même dater du néolithique. Donc ça, c'est pour l'aspect Buxerolles. On a trois vallées sèches essentielles, vallée des Buis, vallée de Lyon et vallée au Lait. Et puis, on finira par la dernière randonnée dans les vallées sèches, dans le secteur de Montamisé, sur Ansoulès. Et Ansoulès, vraiment, c'est une plus petite zone dans ces vallées sèches, mais vraiment, le gros intérêt, c'est explorer ces carrières. On a notamment deux grottes qu'on peut passer, qu'on peut traverser, arriver d'un point et sortir d'un autre côté. Donc ça, c'est assez spectaculaire de faire une randonnée, de traverser une grotte. Et il y a toute une histoire avec, puisqu'on a, selon la légende, extrait la pierre calcaire d'Ansoulès qui aurait servi à bâtir la statue d'Alma à Paris.
Sur le pont d'Alma. Exactement. Au niveau de ces randonnées, donc on en a parlé. C'est vrai que moi, je suis étonné. En Ansoulès, j'avais jamais entendu parler de cette grotte, en fait, ouverte. On peut la traverser. C'est public ou
Oui, c'est public. Ah, vous avez deux grottes, ouais. Et ensuite, dans cette grotte, bon, vaut mieux avoir une petite frontale, mais une petite lumière, on se repère. Et quand on sort de cette grotte, il y a un petit piémin à passer. C'est une petite, on appelle ça en montagne une cheminée, mais c'est 1 ou 2 mètres. Et même nos randonneurs ont réussi l'an dernier. On fait appel à la solidarité avec les étudiants. Et c'est vraiment fascinant de passer dans ces paysages-là qui contrastent avec les coteaux des cours d'eau que j'évoquais tout à l'heure. On a la deuxième grotte qui ressemble un peu aussi à la première. Et puis, à nouveau, voilà, on a l'occasion de traverser ces zones et de bien s'imprégner de cet univers particulier.
Exactement. Donc, si on veut vous contacter, c'est le site internet ou un numéro de téléphone peut-être.
Oui, si vous souhaitez me contacter, donc mes coordonnées téléphoniques sont le 06 22 10 25 93. Je répète, 06 22 10 25 93. Et puis mon adresse professionnelle, donc c'est Geoffroy. On m'appelle souvent Geoffrey, mais ça, j'ai l'habitude. D'accord. Alors, du coup, c'est Geoffroy, Geoffroy, Boucard, @univ-poitiers.fr. Voilà, geoffroy.boucard@univ-poitiers.fr.
Univ pour université donc de Poitiers. Oui. Vous êtes maître de conférence à l'université, professeur aussi. Combien d'élèves dans le secteur cognitif là? Il y a une demande
sur STAPS. Ouais. Là, c'est clairement l'un des plus gros UFR. Enfin, c'est l'un des UFR qui accueille le plus d'étudiants. Et on est facilement sur, 700 étudiants.
Ah oui,
la louche. En tout cas, en licence première année, on Poitiers, Angoulême confondu, puisqu'il y a une antenne également Angoulême, on est autour de 400 et 500.
Et les débouchés pour un jeune qui s'en serait dans cette matière, en fait, hein, de l'autre côté, c'est quoi
Oui, il y a des bons débouchés sur les 4 filières que j'évoquais tout à l'heure, notamment dans l'activité physique auprès des personnes handicapées. C'est une filière aujourd'hui reconnue de plus en plus, notamment avec l'avènement du sport sur ordonnance, mais qui manque encore. Et on a également le débouché pour être professeur de PS dans les collèges et les lycées, par exemple. Et puis entraîneur sportif et dans la filière management du sport pour travailler dans la communication, l'événementiel et dans le marketing.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous laisserai mettre sur Rando 86 peut-être les éléments pour vous contacter si vous le voulez. Moi, je vais juste rappeler que la semaine prochaine, on aura une émission avec Lucille Parnaudot, qui est chef d'entreprise, qui va se présenter d'ailleurs, je crois aussi, mais c'est pas pour ça que je l'invite, mais c'est plus pour parler de Poitiers, qui se présentera, je crois, aux élections prochaines municipales. On aura la semaine suivante Sylvie Pichon, qui nous parlera du Salon du Livre entre livre et vin, où nous serons d'ailleurs présents le week-end du 18 et 19. On aura aussi, alors je n'ai plus qui en tête, pas mal de monde dans les semaines à venir, on parlera du Téléthon le 25 avec Marine Moulin, avec nos amis de SNC 86 et puis avec Michel Daou qui est l'adjoint donc au sport de Chauvigny, avec en même temps la nouvelle peut-être mairesse de Chauvigny, Nelly Garda-Flip, qui sera peut-être élue à ce moment-là puisque M. Herbert a préféré passer la main et on peut le comprendre pour des problèmes de santé. Je vous remercie en tout cas d'être venu parmi nous, Geoffroy.
Merci grandement, bien dit. C'était un plaisir de partager cette émission avec vous, Francis.
Bon, puis à bientôt en tout cas, merci, à bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
acheté un chien, ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette, je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. J'ai un chien, comme l'année dernière. Ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Avaler les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
Traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins traversent sur REC 103.7, animé par Francis.